faut pas avoir une vision trop négative de l'Europe. D'abord, je pense que l'énorme moteur de l'économie mondiale, qui est sa démographie et son progrès technique, en même temps que l'esprit d'entreprise et de démocratie et de liberté qui est en train de l'emporter sur la planète, finira par refaire démarrer le moteur de la croissance, encore à 3,5% en 2013, ce qui est énorme à l'échelle de la planète. Et je crois que l'Europe va être rejointe par cette vague, emportée par ce tsunami de croissance mondiale à partir de 2014-2015, si l'Europe sait s'intégrer, se gérer, s'organiser, sortir de ces difficultés qui sont purement des difficultés de gouvernance, en particulier de la zone euro, et mettre de côté sa gestion un peu peureuse de la dette.
Donc l'Europe pourrait bénéficier dès 2013 des fruits des réformes drastiques mises en place ces derniers mois.
Dès la fin de 2013, sans aucun doute, et 2014 de façon certaine, si encore une fois on ne laisse pas exploser tout le système, mais si on avance vers ce qui est l'avenir nécessaire de l'Europe, c'est-à-dire un fédéralisme entre au moins les pays membres de la zone euro.
Vous insistez beaucoup sur la nécessité d'un fédéralisme européen. On en est encore très loin.
J'insiste parce que je crois que l'euro ne survivra pas sans un fédéralisme politique. L'euro a été conçu pour être un instrument de fédéralisme politique et que sans le fédéralisme politique, l'euro disparaîtra. On a commencé par un fédéralisme monétaire qui est en place. On est en train de mettre en place par la supervision bancaire un fédéralisme financier. On a mis en place un fédéralisme commercial. Reste à mettre en place un fédéralisme économique et politique et social. Ce sont les étapes qui nous restent à franchir. Je ne suis pas pessimiste. Je pense que les Européens ont compris que leur destin était lié et que sans cette intégration, ils retourneront aux diables anciens.
La période la plus critique en termes de crise de l'euro est-elle derrière nous ?
En termes de crise monétaire, oui, mais en termes de crise économique, non, et en termes de crise sociale non plus. Il y a encore à gérer la dette qui va continuer d'augmenter dans beaucoup de pays, qu'il faudra sûrement étaler encore une fois. Donc cette crise de la dette n'est pas derrière nous. Mais je pense que les Européens ont compris que l'euro était la condition même de leur survie et qu'ils feront le moment venu les efforts nécessaires pour assurer l'intégration politique qui sera indispensable.
Quels sont aujourd'hui les leviers qu'il est indispensable d'actionner pour relancer la croissance en Europe ?
Il faut relancer l'investissement en Europe par la mise en place de moyens d'emprunt européens, ce qu'on appelle les euro-obligations. Il faut faire baisser la valeur relative de l'euro face au dollar, car l'euro est trop cher pour pouvoir exporter. Et il faut relancer la demande intérieure en transférant les impôts, des impôts sur les salaires vers des impôts sur la consommation. Ceci aura un impact très positif, tout cela sur la croissance. Et enfin et surtout, il faut relancer le progrès technique et l'innovation qui, elles seules, portent la croissance durable.
Vous évoquez la nécessité aujourd'hui pour la France de se fixer un cap très clair qui s'articulerait autour de quatre ambitions, les quatre F. Cela vaut également pour l'ensemble des pays européens ?
Oui. Je pense que les Européens ont chacun leurs objectifs. Pour la France, la fraternité me paraît fondamentale. Elle est aussi vraie pour l'Europe. Pour l'ensemble des pays européens, la fluidité, la mobilité sociale, géographique, technologique aussi me paraît nécessaire. Pour l'Europe, le fédéralisme européen me paraît nécessaire. Le seul des quatre F qui est proprement français, c'est la francophonie, car la France est un pays dont la langue est parlée par 220 millions de personnes comme première langue et qui sera bientôt, dans 30 ou 40 ans, parlée par 700 millions de personnes, qui assurera à la France un potentiel de rayonnement considérable. Ce quatrième F, évidemment, n'est pas généralisable à l'ensemble de l'Europe.
Benoît XVI, à plusieurs reprises, au regard de la crise économique et financière, appelé à repenser le modèle actuel de développement en plaçant l'humain au centre de tout. Vous y croyez à ce nouveau modèle et quel serait-il ?
J'y crois d'autant plus que j'ai lancé moi-même il y a quelques mois l'initiative d'un mouvement pour l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui prendrait en compte l'intérêt des générations prochaines et qui, en prenant en compte l'intérêt des générations prochaines, servirait l'humanité d'une façon altruiste. Je crois beaucoup à l'altruisme comme idéologie de l'avenir par opposition à l'individualisme. Je me suis d'ailleurs permis d'écrire il y a quelques jours à Sa Sainteté au Vatican pour lui proposer d'une façon ou d'une autre d'associer le Vatican et lui-même à cette réflexion planétaire.
Vous évoquez donc l'appel lancé par François Hollande à Planète Finance que vous avez créé et que vous
Exactement. Dirigez.
Quel est justement ce rapport ?
Nous avons commencé à mettre en place une commission qui va réunir des très hautes personnalités de la planète entière pour réfléchir à ce que sera le monde en 2030 si on n'y fait rien comme tendance naturelle et ce qu'il faudrait faire pour que le monde évolue vers une situation où la partie positive de l'économie, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à l'intérêt des générations passées, présentes et futures, et pas seulement aux acteurs de l'économie directe, devienne prépondérante. Et c'est cela qui sera le contenu de ce rapport et qui sera le contenu de l'action de cette commission la plus large possible, auquel j'ai souhaité aussi associer évidemment les grandes forces religieuses du monde.